Chapitre 4. Histoire de Mrs. Fitzpatrick. Mrs. Fitzpatrick, après un silence de quelques minutes et un profond soupir, commença ainsi. Il est naturel aux malheureux d'éprouver une secrète tristesse en se rappelant les époques de leur vie qui leur ont été les plus agréables. Le souvenir des plaisirs passés nous fait sentir une sorte de regret tendre, comme celui qui nous affecte pour les amis que nous avons perdus. On peut dire que les uns et les autres reviennent en quelque sorte errer dans notre imagination. C'est pour cette raison que je ne réfléchis jamais sans douleur sur ces jours, hélas, les plus heureux de ma vie, que nous avons passés ensemble quand nous étions toutes deux confiées aux soins de ma tante Weston. Hélas, pourquoi Miss Sérieuse et Miss Étourdie ne sont-elles plus? Vous vous souvenez, j'en suis sûr, du temps où nous ne nous appelions jamais par d'autres noms. Vous aviez, j'en conviens, de trop bonnes raisons pour me donner ce dernier. J'ai éprouvé depuis combien je le méritais. Quant à vous, ma Sophie, vous m'avez toujours été supérieure en tout, et je souhaite de tout mon cœur que la destinée vous traite plus favorablement que moi. Je n'oublierai jamais les avis sages et presque maternels que vous me donnâtes un jour que je regrettais amèrement d'avoir manqué un certain bal, et vous n'aviez pas encore 14 ans. Oh, ma Sophie, combien devais-je être heureuse alors, puisque je pouvais regarder cette petite contrariété comme un malheur, et lorsque c'était le plus grand que j'eusse jamais connu. Et cependant, ma chère Henriette, répondit Sophie, c'était alors une affaire sérieuse pour vous. Consolez-vous donc en pensant que ce qui vous désole aujourd'hui, quelle qu'en soit la cause, peut vous paraître par la suite aussi frivole et aussi méprisable qu'un bal vous le paraît aujourd'hui. « Hélas, ma Sophie, répliqua sa cousine, vous penserez vous-même bien différemment de la situation où je me trouve. Car il faudrait que votre cœur fût bien changé, si mes infortunes ne vous arrachaient pas quelques soupirs et même quelques larmes. La connaissance que j'ai de votre sensibilité pourrait seule, au contraire, me détourner de vous raconter ce qui, j'en suis convaincu, vous affectera à tel point. » Ici Mrs. Fitzpatrick s'arrêta, mais les instances réitérées de Sophie l'engagèrent à continuer. « Quoique vous deviez avoir beaucoup entendu parler de mon mariage, poursuivit-elle, cependant, comme il est probable que les faits vous auront été présentés sous un faux jour, je remonterai au commencement de ma malheureuse connaissance avec mon mari, qui se fit à Bath, aussitôt après que vous eûtes quitté ma tante et que vous fûtes retourné chez votre père. » Monsieur Fitzpatrick était un de ces jeunes agréables qui viennent peupler Bath dans cette saison. Il était beau, bien fait, extrêmement galant, et dans sa parure, beaucoup plus recherché encore que tous les autres. En un mot, ma chère, si vous aviez le malheur de le voir à présent, je ne pourrais vous le peindre mieux en vous disant qu'il est maintenant le contraire de ce qu'il était alors. Car il a pris depuis si longtemps un ton rustique et des manières campagnardes qu'il est absolument devenu un sauvage d'Irlande. Mais, pour continuer mon histoire, les qualités qu'il possédait alors le recommandèrent si avantageusement que, quoique les gens de condition fissent alors société à part et en eussent exclu ceux d'un rang inférieur, M. Fitzpatrick trouva les moyens de s'y faire admettre. Il n'était peut-être pas facile de l'éviter, car il n'exigeait pas beaucoup d'invitations. Il savait même s'en passer dans le besoin. Comme il était beau et bien fait, il ne lui était pas très difficile de se mettre bien avec les femmes. Et comme il avait d'ailleurs fréquemment tiré l'épée, les hommes n'osaient pas l'insulter publiquement. Sans quelque motif de cette nature, il est probable qu'il n'eût pas tardé à être chassé par son propre sexe. Car, assurément, il n'avait aucun titre positif pour être préféré à la petite noblesse d'Angleterre. Aussi ne paraissait-elle disposée à lui accorder aucune faveur extraordinaire. Tous les hommes disaient du mal de lui en son absence, ce qui procédait vraisemblablement d'un sentiment d'envie, car toutes les femmes l'accueillaient fort bien, et il en était très particulièrement distingué. Quoique ma tante ne fût pas une personne de condition, comme elle avait toujours vécu à la cour, elle était de cette société. Car quelques moyens que l'on ait employés pour s'introduire parmi les grands, quand on y est une fois parvenu, l'on a acquis un mérite suffisant par cela seul que l'on y est. Toute jeune que vous étiez, vous ne pouviez vous empêcher de faire cette observation au sujet de ma tante, qui était libre ou réservé avec tout le monde, suivant que l'on avait plus ou moins de cette sorte de mérite. Ce fut, je crois, ce mérite qui mit principalement M. Fitzpatrick dans ses bonnes grâces. Il parvint si adroitement à s'y insinuer qu'il était toujours de ses parties les plus intimes. Il faut convenir qu'il savait se montrer reconnaissant d'une pareille distinction. Car il lui prodigua bientôt ses soins et ses attentions avec un zèle si marqué que le club de la médisance commença à en parler, et que les personnes les moins malveillantes arrangeaient déjà un mariage entre eux. Quant à moi, je ne doutais pas, je l'avoue, que ses vues ne fussent tout à fait honorables, comme on dit communément, c'est-à-dire qu'il n'eût projet de voler la fortune d'une femme en l'épousant. Ma tante n'était, pensais-je en moi-même, ni assez jeune, ni assez belle pour inspirer une passion criminelle, mais elle possédait en grande abondance les charmes matrimoniaux. Le respect extraordinaire qu'il ne cessait de me témoigner depuis le premier moment de notre connaissance me confirma encore dans mon opinion. Je crois que c'était un moyen qu'il employait pour tâcher de diminuer, s'il était possible, l'éloignement que mon intérêt personnel pouvait lui faire supposer que je devais avoir pour ce mariage. Et je ne saurais dire jusqu'à quel point ce moyen lui réussit, car, satisfaite de la fortune dont je jouissais, et moins esclave que personne de l'ambition, je ne pouvais guère être l'ennemi d'un homme, de la conduite duquel je n'avais personnellement qu'à me louer. D'autant plus qu'il me montrait un respect dont il se dispensait absolument pour le grand nombre des femmes de qualité. Quelque agréable que me fût cette conduite, il en changea bientôt, et lui en substitua une autre qui me le fut peut-être davantage. Il y mit beaucoup de douceur et de tendresse, languit, prodigua des soupirs. De temps à autre, cependant, il s'abandonnait à sa bonne humeur accoutumée. Je ne saurais dire si c'était un jeu joué ou s'il était entraîné par son caractère naturel, mais il ne s'y livrait jamais que dans la société générale et avec les autres femmes. Car même dans une contredanse, quand il n'était pas mon partenaire, il prenait un air sérieux, et aussitôt qu'il se rapprochait de moi, son regard était le plus doux qu'on puisse imaginer. Enfin, il avait en tout des soins si marqués pour moi qu'il aurait fallu que je fusse aveugle pour ne pas m'en apercevoir. Et vous étiez encore plus charmée, ma chère Henriette, s'écria Sophie. Il n'est pas nécessaire d'en rougir, ajouta-t-elle en soupirant, car il y a dans la tendresse des charmes irrésistibles. Et nous serions trop heureuses si les hommes étaient plus sincères. Cela est trop vrai, répondit sa cousine. Des hommes qui, dans toute autre circonstance, n'ont pas le sens commun, sont de vrais Machiavel dans l'art d'aimer. Je voudrais bien ne pas en avoir la preuve. La médisance, continua-t-elle, commença à s'attacher à moi avec autant d'acharnement qu'elle avait poursuivi ma tante, et quelques femmes bienveillantes ne se firent aucun scrupule d'affirmer que M. Fitzpatrick avait une intrigue avec nous deux à la fois. Mais ce qui peut paraître étonnant, c'est que ma tante ne vit pas et ne parut pas le moins du monde soupçonner ce qui, je pense, était assez visible dans notre conduite mutuelle. On croirait réellement que l'amour aveugle entièrement une vieille femme. Dans le fait, elles dévorent avec tant d'avidité les compliments qu'on leur fait, que comme un gourmand affamé, elles ne se donnent pas le temps d'observer ce que les autres font à la même table. J'ai fait cette remarque dans beaucoup d'autres occasions encore, et ma tante l'a si exactement vérifié que, quoiqu'elle nous trouvât souvent ensemble à son retour des eaux, le moindre mot de sa part, pourvu qu'il roulât sur l'impatience où il était de la revoir, dissipait entièrement et au moment même tous les soupçons qu'elle aurait pu concevoir. Un des artifices qui lui réussissait admirablement près d'elle était de me traiter comme un petit enfant, et de ne m'appeler jamais en sa présence par aucun autre nom que par celui de la jolie petite personne. Je conviens que cela lui nuisit un peu auprès de votre humble servante. Mais je pénétrai bientôt cet artifice, surtout lorsque je me fus aperçu qu'il se conduisait à mon égard en son absence d'une manière toute différente. Cependant, si je ne trouvais pas désobligeante pour moi une conduite dont j'avais découvert le but, j'en étais d'ailleurs cruellement la victime, car ma tante me prenait réellement pour celui qu'elle croyait son amant affecté de me prendre lui-même, et me traitait si bien comme une enfant que je m'étonne en vérité qu'elle n'ait pas pensé à me faire reprendre mes lisières. À la fin, mon amant, car il l'était, crut convenable de me découvrir de la manière la plus solennelle un secret que je savais depuis longtemps. Il me fit entendre qu'il ressentait pour moi tout l'amour qu'il avait affecté pour ma tante. Il gémissait en termes très pathétiques de l'encouragement qu'elle lui avait donné, et se faisait un grand mérite auprès de moi des heures ennuyeuses qu'il avait péniblement passées à l'écouter. Que vous dirai-je, ma chère Sophie? Je sens que je ne puis vous cacher la vérité. Il me plaisait, j'étais charmé de ma conquête. Je jouissais d'être la rivale de ma tante, j'étais enchanté d'être la rivale de tant d'autres femmes. En un mot, je crains de ne m'être pas conduite comme je l'aurais dû, dès le premier jour qu'il me fit sa déclaration. J'aurais bien voulu ne pas lui avoir donné des encouragements presque positifs avant notre séparation. Tout Bath parla alors hautement, et je pourrais presque dire tonna contre moi. Plusieurs jeunes femmes affectèrent de m'éviter et de ne me plus connaître, moins peut-être parce qu'elles croyaient aux propos dont j'étais l'objet, que par le désir de me bannir d'une société où j'accaparais trop exclusivement leurs favoris. Je ne peux m'empêcher ici d'exprimer la reconnaissance que je dois à la bonté particulière de M. Nash, qui me prit un jour à part et me donna un conseil que j'aurais été bien heureuse d'avoir suivi. « Mon enfant, me dit-il, je vois avec peine la familiarité qui subsiste entre vous et un homme qui est tout à fait indigne de vous, et qui, je le crains bien, causera votre perte. Quant à votre vieille sorcière de tante, si cela ne devait pas vous faire tort, ainsi qu'à ma charmante Sophie Weston, je répète, je vous assure ses propres mots, je serais charmé de tout mon cœur qu'il se mit en possession de tout ce qui lui appartient. Je ne donne jamais de conseils aux vieilles femmes, car si elles se sont mises dans la tête d'aller au diable, il n'est pas plus possible que ce n'est pas la peine de les en empêcher. L'innocence, la jeunesse, la beauté sont dignes d'un meilleur sort, et je voudrais les sauver de ses griffes. Permettez-moi de vous conseiller, ma chère enfant, de ne pas souffrir plus longtemps la familiarité de cet homme. Il me dit encore beaucoup d'autres choses que j'ai oubliées en ce moment, et auxquelles je confesse que je fis bien peu d'attention à l'heure, car mon penchant contrariait tous ses discours. Je ne pouvais d'ailleurs me persuader que des femmes de qualité daignassent descendre jusqu'à se familiariser avec un homme tel que M. Nash me le dépeignait. Mais je crains bien, ma chère, de vous fatiguer par des détails si minutieux. Pour abréger, imaginez-moi mariée. Imaginez-moi avec mon mari au pied de ma tante. Imaginez celle-ci une femme plus folle que toutes celles enfermées à Bedlam, dans le plus violent accès de fureur, et votre esprit ne vous suggérera rien de plus que la vérité. Le lendemain même, ma tante quitta Bath, en partie pour éviter de voir M. Fitzpatrick ou moi, et non moins peut-être pour éviter de voir personne. Car bien que l'on m'ait dit qu'elle ait formellement tout désavoué, je crois qu'elle fut alors un peu confuse d'avoir été ainsi trompée dans ses espérances. Depuis ce temps, je lui ai écrit plusieurs lettres, mais je n'ai jamais pu obtenir de réponse. Ce qui, je dois l'avouer, est d'autant plus dur pour moi qu'elle-même a été, quoique innocemment, la cause de tous mes malheurs. Car sans le prétexte de lui faire sa cour, M. Fitzpatrick n'eût pas trouvé assez d'occasion pour parvenir à s'assurer de mon cœur qui, dans toute autre circonstance, je m'en flatte encore, n'eût pas été une conquête facile pour un homme tel que lui. Je crois même que je n'aurais pas erré aussi grossièrement dans mon choix, si je m'en étais fié à mon propre jugement. Mais je m'en rapportais entièrement à l'opinion des autres, et je crus, le plus sottement du monde, au mérite d'un homme que je voyais si universellement bien reçu des femmes. Quelle est la raison, ma chère, pour laquelle nous, qui avons autant de bon sens et d'intelligence que les plus sages des hommes, faisons si souvent le choix des plus sots d'entre eux, pour amant et pour époux? Je ne ressens jamais une plus vive indignation que quand je réfléchis au nombre de femmes sensées qui ont été victimes des sots. Ici, elle fit une pause de quelques moments, mais Sophie ne répondant point, elle continua comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Chapitre 5, dans lequel l'histoire de Mrs. Fitzpatrick est continuée. Nous ne restâmes pas à Bath plus de 15 jours après notre mariage, car il n'y avait aucun espoir de réconciliation avec ma tante, et quant à ma fortune, je ne pus en toucher un denier jusqu'à l'époque de ma majorité, pour laquelle il ne me manquait plus que 2 ans. C'est pourquoi mon mari résolut de partir pour l'Irlande. Je fis les plus vives remontrances contre ce départ et insistai sur une promesse qu'il m'avait faite avant notre mariage, que je ne ferais jamais ce voyage sans mon consentement. Et, s'il faut l'avouer, j'avais le projet de n'y jamais consentir. Personne, je crois, ne blâmera ma résolution. Je n'en parlais pas cependant à mon mari et me bornai à lui demander le délai 1 mois. Mais il avait fixé le jour et il tenait obstinément à ne pas le changer. Le soir qui précéda notre départ, comme nous disputions tous deux vivement sur ce sujet, il se leva précipitamment de son fauteuil et me quitta brusquement en me disant qu'il allait à la salle de société. À peine était-il sorti que je vis sur le parquet un papier qu'il avait, sans s'en apercevoir, laissé tomber en tirant son mouchoir de sa poche. Je ramassai ce papier, et voyant que c'était une lettre, je ne me fis aucun scrupule de l'ouvrir et de la lire. Je la lus en effet si souvent que je peux vous la répéter presque mot pour mot. Voici donc cette lettre. À M. Brian Fitzpatrick. Monsieur, j'ai reçu la vôtre, et je suis surpris que vous me traitiez de cette manière. Moi qui n'ai jamais vu la couleur de votre argent, excepté pour un habit de brocatelle. Et votre mémoire monte à présent à plus de 150 livres sterling. Considérez, monsieur, combien de fois vous vous êtes moqué de moi avec votre mariage toujours prochain avec cette dame-ci, avec cette dame-là. Mais je ne puis vivre de promesses ni d'espérances, et mon marchand de draps ne prendra pas de semblable monnaie en paiement. Vous me mandez que vous êtes sûr d'avoir ou la tante ou la nièce, et que vous auriez bien épousé préférablement la tante, dont le douair est immense, mais que vous préférez la nièce à cause de son argent comptant. Je vous en prie, monsieur, prenez une fois l'avis d'un sot, et épousez la première que vous pourrez. Vous me pardonnerez de vous soumettre mon avis, sachant que je désire sincèrement votre bonheur. Je tirerai sur vous par le prochain courrier une lettre de change à l'ordre de messieurs Jean Druckett et compagnie, à 14 jours de date, et je ne doute pas que vous n'y fassiez honneur. Je suis, monsieur, votre humble serviteur, Sam Cosgrave. Voilà la lettre mot pour mot. Vous devinez, ma chère amie, combien elle m'affecta. Vous préférez la nièce à cause de son argent comptant. Si chacun de ces mots eût été un poignard, je les aurais enfoncés dans son cœur avec plaisir. Je ne vous raconterai pas dans quel accès de démence je tombais en cette occasion. La source de mes larmes était presque inépuisée à son retour, mais l'enflure de mes yeux en offrait des traces remarquables. Il se jeta sur son fauteuil avec beaucoup d'humeur, et nous gardâmes longtemps le silence. À la fin, il me dit d'un ton impérieux, « J'espère, madame, que vos gens ont fait tous vos paquets, car la voiture sera prête à 6 heures du matin. » Ma patience fut mise entièrement à bout par cette provocation, et je répondis, « Non, monsieur, voici encore une lettre qui n'est pas empaquetée. » Et la lui jetant sur la table, je me mis à l'accabler des reproches les plus piquants. Je ne saurais vous dire s'il fut retenu par le sentiment de sa faute, par la honte ou par la prudence. Mais quoi qu'il soit le plus violent des hommes, il ne se mit pas en fureur en cette occasion. Il tâcha au contraire de m'apaiser par les moyens les plus doux. Il jura que la phrase de la lettre dont je me plaignais principalement n'était pas de lui, et qu'il n'avait jamais rien écrit de semblable. Il avouait cependant qu'il avait fait mention de son mariage et de la préférence qu'il m'avait donnée, mais il désavoua avec une foule de serments qu'il en eût jamais apporté une raison pareille. Il s'excusait d'en avoir même fait mention sur l'embarras où il se trouvait pour avoir de l'argent. Embarras provenant, disait-il, de ce qu'il avait négligé trop longtemps les terres qu'il avait en Irlande. Et ce motif, ajouta-t-il, qu'il n'avait pu prendre sur lui de me découvrir, était le seul qu'il avait fait insister si fortement sur notre voyage. Il employa alors les expressions les plus tendres, me fit les caresses les plus passionnées, et s'épuisa en protestations de l'amour le plus vif et le plus durable. Il y avait une circonstance qui fut cependant d'un grand pas pour moi, et plaida en sa faveur. Ce fut le mot « douaire » qui se trouvait dans la lettre du tailleur et d'autant plus que ma tante n'avait jamais été mariée, ce que M. Fitzpatrick savait fort bien. Imaginant donc que cet homme avait sans doute employé ce mot de lui-même, ou sur quelque oui-dire, je me persuadai aisément qu'il s'était également permis cette odieuse phrase, sans y être mieux fondé. Quel pauvre raisonnement, ma chère! Mais n'étais-je pas plutôt son avocat que son juge? Je ne sais pourquoi je rappelle cette circonstance. Puis je me justifiai du pardon que je lui accordais alors. Enfin, eût-il été 20 fois aussi coupable qu'il l'était réellement, la moitié de la tendresse, la moitié de l'amour qu'il me témoigna en ce moment, aurait suffi pour que je lui pardonnasse. Je ne fis plus dès lors aucune objection contre notre départ. Nous nous mîmes en route le lendemain matin, et 8 à 10 jours après, nous arrivâmes au château de M. Fitzpatrick. Votre curiosité voudra bien me permettre de lui épargner les détails de notre voyage, car il me serait aussi désagréable de me les rappeler qu'à vous de les entendre. Ce château, donc, est une ancienne maison seigneuriale, et si j'étais dans un de ces moments de bonne humeur, où vous m'avez vu si souvent, je pourrais vous en faire la description la plus ridicule. Il avait l'air d'avoir été jadis occupé par quelque gentilhomme campagnard. Il était assez vaste, surtout en proportion des meubles, car il y en avait très peu. Une vieille femme qui paraissait de l'âge du bâtiment et ressemblait beaucoup à celle dont Chaumont parle dans L'Orpheline, nous reçut à la porte, et avec un cri qui ne ressemblait en rien à la voix humaine et était absolument inintelligible pour moi, elle complimenta son maître sur son heureuse arrivée. En un mot, toute cette scène fut si sombre et si mélancolique que je me sentis accablé et prêt à m'évanouir. Mon mari s'en aperçut, mais au lieu de me rassurer, il prit à tâche d'augmenter mes peines par 2 ou 3 observations malignes. « Vous voyez, madame, me dit-il, qu'il y a de bonnes maisons ailleurs qu'en Angleterre. Mais vous préféreriez peut-être un chétif logement à Bath. » Heureuse, ma chère, 1000 fois heureuse, la femme qui, dans quelque état que ce soit, a un compagnon aimable et sensible pour la soutenir et la consoler. Mais il semble que je ne réfléchisse sur les situations heureuses de la vie que pour aggraver mon malheur. Mon mari, loin de s'occuper à égayer ma solitude, me convainquit trop tôt que j'étais condamnée à être malheureuse avec lui dans tous les temps et dans toutes les positions. En un mot, il était d'une arrogance insupportable et d'un caractère tel que vous n'en avez peut-être jamais rencontré dans le monde. Car une femme ne peut en trouver d'exemple que dans un père, un frère ou un mari, et votre père n'est pas de ce caractère. Il y avait si peu de temps que cet insolent personnage m'avait paru tout autre. Bonté divine! Comment est-il possible que les hommes puissent mentir aussi constamment lorsqu'ils sont dans le monde, et semblent se faire un plaisir de ne découvrir la triste vérité que dans leur intérieur? C'est là, ma chère, qu'il se dédommage de la contrainte pénible qu'il s'impose dans la société. Car j'ai observé que plus mon mari avait été aimable et gai en compagnie, plus j'étais sûr de le trouver triste et morose lorsque nous nous retrouvions seuls. Comment pourrais-je vous dépeindre sa dureté? Il ne répondait à mon amour que par la froideur et l'insensibilité. Il n'écoutait qu'avec dédain mes petites plaisanteries que ma Sophie et nos autres amis avaient la bonté de trouver si agréables. Dans les moments où j'étais le plus sérieuse, il chantait et sifflait. Et toutes les fois que j'étais abattue et malheureuse, il se mettait en colère et me maltraitait. Car, quoiqu'il ne se plût jamais à me voir de la gaieté, et qu'il ne l'attribuât pas au bonheur qu'il me procurait, mon abattement l'offensait toujours, et il ne manquait jamais de l'imputer à mon repentir d'avoir épousé un Irlandais. Vous concevez aisément, ma chère sérieuse, pardon si je m'oublie ainsi, que quand une femme fait un mariage imprudent selon le monde, c'est-à-dire quand elle n'est pas l'esclave stupide de l'intérêt, il faut nécessairement qu'elle ait de l'inclination et de l'affection pour son mari. Vous croirez facilement aussi que cette affection peut diminuer, et je peux vous assurer que le mépris finit par le détruire entièrement. Je commençais alors à sentir ce mépris pour mon mari, que je m'aperçus être, il faut que je tranche le mot, un sot dans toute la force du terme. Vous vous étonnerez peut-être que je n'eusse pas fait cette découverte longtemps auparavant. Mais je ne sais où les femmes vont chercher cette foule de raisonnements dont elles se servent pour excuser la sottise de ceux qu'elles aiment. outre que l'œil le plus pénétrant, suffit à peine pour discerner un sot à travers le masque de la gaieté et de ce qu'on appelle le bon ton. On croira aisément que quand une fois je méprisais mon mari, comme je vous avoue que cela arriva bientôt, je dus me déplaire dans sa compagnie. Je conviens que j'avais le bonheur d'en être très peu importuné, car notre maison était alors élégamment meublée, notre cellier rempli de vin. Nous avions une foule de chiens et de chevaux. Et comme monsieur aimait à remplir grandement avec ses voisins les devoirs de l'hospitalité, ses voisins venaient chez lui avec beaucoup de plaisir. En sorte que la chasse et la table consumaient une si grande partie de son temps que je n'avais pour ma part qu'une petite partie de sa conversation, c'est-à-dire de sa mauvaise humeur. Je me serais encore trouvée heureuse si j'avais pu aussi facilement me soustraire à toute autre compagnie désagréable. Mais, hélas, dans ma solitude, je ne pouvais en écarter une qui me tourmentait constamment, d'autant plus que je n'entrevoyais aucun espoir d'en être à jamais délivré. Cette compagnie était mes propres pensées qui m'importunaient, me déchiraient et me poursuivaient, comme des fantômes la nuit et le jour. Dans cette situation, il m'arriva un événement dont toute l'horreur ne peut ni se peindre ni s'imaginer. Pensez, ma chère, figurez-vous, si vous le pouvez, tout ce qu'il m'a fallu souffrir. Je devins mère, et je devais ce titre à l'homme que je méprisais, que je haïssais, que je détestais. Je passais par toutes les angoisses, par toutes les douleurs d'un accouchement, 10 fois plus pénible dans une circonstance semblable que tout ce que l'on peut souffrir pour un homme qu'on aime. Et cela dans un désert, au milieu d'une scène continuelle de débauche et de tous les genres d'excès, sans une amie, sans une compagne, et sans aucune de ces distractions agréables qui soulagent souvent et font quelquefois peut-être plus que compenser les souffrances de notre sexe dans un pareil moment.